Mission Sicile, podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans Mission Sicile, le podcast de Tendance Ouest qui vous raconte l'histoire des Normands partis chercher la fortune et l'aventure dans l'île italienne. Épisode 3, les traces encore visibles aujourd'hui et on va se pencher sur l'architecture religieuse car les Normands, en hommes du Moyen-Âge, ont érigé plusieurs églises. On compte tout de même une cathédrale et deux églises à Palerme et puis deux autres cathédrales, une à Cefalù, c'est à une heure à l'est de la capitale de l'île, et une autre à Monreale, c'est à une demi-heure de route au sud. Les trois cathédrales construite dans les mêmes deux siècles de présence des Normands. Mais on commence avec Jean-Marie Lévesque, le directeur du musée de Normandie à Caen, qui découvre l'église de la Martorana et surtout son campanile qui l'a époustouflé.
Monsieur Lévesque, vous avez fait waouh quand vous avez vu ce campanile. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché?
Déjà, il y a cette qualité architecturale est tout à fait étonnante avec le mélange d'influences orientales et d'influences latines. Et cette caractéristique du sud de l'Italie, notamment des Pouilles, la partie haute du campanile, qui est très richement décorée, rappelle quand même beaucoup certains aspects des tours de l'abbaye aux Dames à Caen. Alors c'est un rapprochement qui pose question, qu'il ne faut pas surinterpréter.
Autre église dans Palerme, mais pas des moindres, la cathédrale, une église qui ressemble un peu, beaucoup, à une forteresse. Et on suit la guide Maya Cataldo.
On est exactement dans la même période de la construction de la cathédrale de Montréal et celle-ci à Palerme, 1170. Hein, les deux cathédrales se construisent pratiquement en même temps, pour des raisons qu'on va dire probablement, des piliers politiques qui amènent donc le roi Guillaume II. À ce moment-là, on change donc historiquement de roi vers Montréal. Et les deux cathédrales donc, s'édifient en même temps, avec, si vous voulez, une concentration particulière de ce grand projet de la cathédrale de Palerme sur l'architecture extérieure. Et Montréal est différemment, très simple à l'extérieur et particulièrement riche à l'intérieur.
C'était une musique sicilienne du Moyen-Âge, Benedicamus Domino, de l'ensemble Alcantara, dans son album Abalati Abalati, chant et musique de la Sicile médiévale. Et donc, nous sommes à l'intérieur de la cathédrale de Palerme et on y trouve les tombeaux des rois normands de Sicile, enfin certains, notamment celui de Roger II. Alors, pour vous refaire l'historique, Roger Ier arrive de Normandie, de la Manche, et devient d'abord comte, et c'est son fils Roger II qui, lui, est devenu roi de Sicile, avec entre les deux une régence de la mère de Roger II, Adélaïde de Montferrat.
Le travail de Roger II, ce que Roger II fera, sera préparé bien sûr par son père, le comte Roger, et puis par une parenthèse qui en effet est le moment où sa mère prépare, au moment où Roger serait devenu roi. Et Roger, il est devenu roi d'une manière aussi assez, épique, oui, parce que en effet, au moment où Roger, en 1130, il devient roi, il y a toute une série de conditions qui se créent pour favoriser la couronne. Hein, c'était ce qui manquait effectivement à cette dynastie normande qui avait déjà beaucoup de choses. La couronne manquait, mais il y avait en effet un pape qui, de quelque manière, a présenté un obstacle. Et en 1130, ce pape, il est mort. Et en 1130, se crée une situation particulière dans la papauté, là où il y avait, bon, pour des volontés politiques à l'intérieur de la papauté, deux papes. Le pape et l'antipape. Et alors, Roger, dans la stratégie politique, il va faire un accord avec Anaclète, qui deviendra effectivement le pape officiel, et l'accord prévoit le couronnement. Donc la couronne arrive, arrive quand Roger, il a déjà 30 ans, une trentaine d'années. Donc il a déjà en main le pouvoir depuis longtemps. Et ce pouvoir, il a été justement préparé dans le sens de cette ouverture, dans le sens de cette tolérance, par peut-être l'ADN normand, il est là. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de domination, beaucoup de rois, beaucoup de choses extraordinaires au cours de toute l'histoire de la Sicile. Mais il y a un moment où il y a un déclic, il y a un de plus. Alors, c'est peut-être l'ADN normand qui a déterminé cette ouverture d'esprit, qui a déterminé ces résultats au final.
Le tombeau est en porphyre, une pierre volcanique rouge extrêmement dure à tailler, puis surtout très chère à l'époque. Mais à l'origine, il ne devait pas être enterré à Palerme, selon Maya Cataldo.
Il était prévu prévue pour être placée à la cathédrale de Cefalù, que lui-même, par ses volontés testamentaires, il avait décidé qu'elle devienne son mausolée. D'accord ? Mais on ne connaît pas les raisons, on peut les soupçonner, hein, pour lesquelles, effectivement, ses volontés ne sont pas respectées. Probablement, il y a la volonté, au point de vue politique, de marquer la fin d'un moment, hein, le moment tout court normand qui se termine avec les rois normands Guillaume II et qui représente, si vous voulez, une nouvelle époque avec Frédéric II.
Podcast by Tendance Ouest.
Avec la mort de Frédéric II en 1250, vraiment, on marque une frontière historique de la fin d'une période, un âge d'or, et si vous voulez, avec la domination angevine, un petit peu une sorte de décadence. La naissance de Frédéric II se situe de toute façon dans une situation politique extrêmement compliquée. Guillaume II, qui avait marié Jeanne d'Angleterre, ils n'avaient pas eu d'enfants. Politiquement, on doit trouver une solution. La solution que l'on trouve est de marier Constance de Teuville, qui était donc la fille de Roger II, qui était le papy de évidemment, et de la marier avec Henri VI Hohenstaufen, de la maison donc de l'Empire germanique. Et ce mariage se fait dans des conditions très difficiles, c'est-à-dire Constance de Teuville, elle a 32 ans pour l'époque.
Elle est vieille.
C'est important, oui, elle est vieille en fin des comptes. Et cet enfant qui doit être l'héritier de cet empire, voilà, n'arrive pas. Jusqu'à que, effectivement, à l'âge de 37 ans, Constance a les symptômes de cette grossesse et elle sera, après, ça c'est vraiment historiquement raconté, obligée à accoucher publiquement. Donc l'accouchement de Frédéric II se fait publiquement à Iesi pour effectivement témoigner la naissance de cet héritier de la maison normande qui va se réunir avec la maison de l'Empire germanique de Frédéric Barbarousse.
C'était encore l'ensemble Alcantara dans le même album Canto di Carnavale. Bon, entre Roger II et Frédéric II, il y a eu d'autres rois qui sont eux enterrés dans la cathédrale de Monreale. Pareil, architecture arabo-normande et de très grandes mosaïques à l'intérieur. C'est l'église d'ailleurs qui en a le plus au monde. Les explications, encore une fois, de Maya Cataldo, la super guide de Palerme qui nous a accompagné tout le voyage.
Dès que Guillaume il arrive au pouvoir, très jeune, on est en 1072, on soupçonne que tout de suite il commence les travaux de Monreale. On le soupçonne parce que déjà on a un papier qui date de 1176 dans lequel effectivement on a l'évidence qu'une partie de la cathédrale est disons déjà présente au point de vue de la structure architecturale. Et dans ce même papier on dit que c'était au moment où le pouvoir passe dans les mains de Guillaume que lui décidera de commencer à édifier cette cathédrale.
Et pourtant, rien n'était fait pour accueillir ce bâtiment à cet endroit de l'île, et avec deux versions de l'intérêt d'y construire une église entre la version politique et puis celle religieuse.
Montréal était la réserve de chasse privilégiée des rois normands. Basta. Il n'y avait pas un centre habité, il n'y avait pas une communauté. Et lui, là, il édifie cette énorme cathédrale. Et il a bien sûr la nécessité que les travaux avancent rapidement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on pense que déjà la structure est debout après 4 ans. Et c'est ce qui nous explique pourquoi, effectivement, elle se présente simple au point de vue de son architecture extérieure par rapport à la cathédrale de Palerme. Donc il y a la nécessité d'avancer rapidement et de concrétiser un projet qui politiquement est un projet d'autocélébration du pouvoir du roi. Et effectivement à Montréal on retrouve, Guillaume s'inspire à son papy, donc à son grand-père Roger II, mais on retrouve un couronnement. De Roger, couronné directement par le Christ, pas la peine de dire donc qu'il y a une lecture qui souligne une relation directe entre le pouvoir et le divin, comme si le pouvoir roi normand était déterminé directement par le divin sans effectivement considérer, je veux dire, l'intermédiation de l'Église et de la papauté. Cette lecture, elle est refusée bien sûr par Padre Nicola, d'accord ? Donc lui, il vous dira que Montréal est un vœu que Guillaume il a fait pour sa forte, pour son fort sentiment religieux. c'est ce, effectivement, que Guillaume dira déjà à l'époque. Il produira un papier, que j'ai oublié de conserver d'ailleurs à la Bibliothèque régionale de Palerme, dans lequel il justifie ce geste. Comment ? En disant, et il se signe effectivement, que durant une journée dédiée à la chasse, en fin de journée, il s'endort très fatigué sous un arbre et il voit apparaître en rêve la Vierge. Et c'est la Vierge même qui lui demandera de construire une cathédrale en son honneur. D'ailleurs, la cathédrale de Montréal est dédiée à la Vierge, donc Santa Maria la Nuova. Et effectivement, c'est ce que publiquement représente la justification pour un geste qui a de toute façon une valeur politique importante.
Podcast by Tendance Ouest.
Et voilà, vous êtes incollables sur l'histoire des rois normands de Sicile. Prochain épisode, on sort de l'histoire pour aller voir les traces encore vivantes. Merci d'écouter Mission Sicile. À très bientôt.